France Culture.
Des ressources limitées, voire rares, voilà une contrainte à laquelle les agriculteurs et agricultrices sont confrontés. Nous l'avons vu hier à travers l'exemple de la ressource en eau qui limite de fait la production. Or, la notion de contrainte liée notamment à la fixité de la terre a alimenté les théories de certains économistes et en tout premier lieu celle de Thomas Malthus. Pour lui, la croissance démographique, l'excès de population, entraîne un déséquilibre trop important avec les moyens nécessaires pour nourrir justement cette population et même de fait droit à la stagnation, bref, empêche toute forme de croissance économique. Son principe de population résiste relativement mal aux faits qui s'imposent au 19e et 20e siècle, qui voient la croissance démographique s'accompagner aussi d'une croissance de la richesse par tête. Mais cette doctrine malthusienne qui inspira Darwin en son temps a trouvé un écho lorsque des économistes ont tenté d'élaborer une théorie plus moderne de la croissance qui prend en compte justement le poids de la démographie pour expliquer les évolutions de l'économie sur le temps très très long. C'est donc pour clore cette semaine spéciale à deux jours désormais de l'ouverture du Salon de l'agriculture à ce penseur très commenté, voire controversé qu'est Thomas Malthus, que nous consacrons notre portrait de la semaine dans cette émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde aujourd'hui par Mégane Bélanger qui assure le duplex depuis ici à Rennes et puis ici à Paris. C'est Grégory Vallon qui assure la technique. Rennes où se trouve, je le précise, notre invité du jour. Grégory Pontière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc avec nous à distance, je le disais, depuis les studios d'ici à Rennes. Vous êtes professeur d'économie à l'ENS Rennes, chercheur au Centre de Recherche en Économie et Management. Vous êtes un grand spécialiste de l'économie, de la démographie et de l'économie du bien-être. On peut signaler deux ouvrages dont vous êtes l'auteur, Économie de la longue période, paru chez Economica en 2020, et Économie du vieillissement. Ça, c'était à la découverte il y a un tout petit peu plus longtemps, puisque c'était en 2017. Alors, Thomas Malthus est né en février 1760. À Rouquerie, dans le Surrey, c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Londres. En 1797, il devient pasteur anglican et c'est au nord de fait de la capitale qu'il passe l'essentiel de sa vie à Aylesbury à partir de 1805 en tant que professeur d'histoire et d'économie politique au collège fondé par la Compagnie anglaise des Indes orientales. Alors Malthus meurt en 1834, c'est donc un contemporain de David Ricardo qu'il rencontre en 1811, de James Stuart Mill ou encore de William Godwin, et je cite tous ces noms car tous auront une certaine importance et une certaine influence, on va dire, sur sa pensée et puis surtout repère chronologique fondamental. Il publie en 1798 la première version de son essai sur le principe de population en tant qu'il influe sur le progrès futur de la société, avec des remarques sur les théories de M. Godwin et de M. Condorcet et d'autres auteurs. Voilà pour le titre complet qu'on n'emploiera pas forcément en entier tout au long de cette émission. Grégory Pontière, de la même façon que nous avons là un bref aperçu biographique, d'un point de vue théorique, comment pourrait-on qualifier, caractériser la raison pour laquelle Malthus tente de construire une doctrine économique? Quel est son but au fond? Qu'est-ce qu'il a cherché à comprendre?
Je pense que l'apport principal de Thomas Malthus à la discipline économique a consisté à introduire la notion de temps long dans la discipline économique. Donc il s'est intéressé vraiment à des horizons temporels de grande longueur. Les questions qui l'intéressaient, c'était finalement de savoir dans quelle mesure il est possible pour une société de connaître une expansion soutenue, durable, dans quelle mesure il est possible d'avoir une croissance démographique durable, dans quelle mesure il est possible d'avoir une amélioration des conditions de vie matérielles. Donc en gros, ce qui l'intéressait, c'était la forme de la dynamique de longue période. Est-ce qu'on va assister à une sorte de progrès linéaire où au fil des années, au fil des siècles, la vie dans nos sociétés va s'améliorer? Ou au contraire, est-ce qu'une société va nécessairement connaître une succession de crises suivie de périodes d'expansion et comme ça, des sortes d'oscillations de longue période? Donc c'était vraiment ça la question qui l'intéressait, je pense, la forme de la dynamique de longue période, la possibilité ou l'impossibilité d'un progrès social vraiment durable.
Grégory Pontière, il faut insister sur ce point puisque vous venez de l'introduire et puis parce que c'est ce qui fait, vous l'avez dit, la caractéristique de Thomas Malthus. Mais pourquoi finalement la prise en compte d'une temporalité très très longue pour comprendre les conditions de la croissance est nécessaire selon Malthus? Pourquoi cette attention portée au très très long terme?
En fait, je pense que ce que Malthus introduit vraiment, c'est une grande importance donnée aux variables démographiques. En quelque sorte, Malthus va vraiment sceller une union sacrée, on peut dire, hein, entre l'analyse des variables économiques et l'analyse des grandeurs démographiques. Alors, c'est pas Malthus qui a introduit en premier le concept de population. Le concept de population, je pense qu'il a été introduit par David Hume dans des discours politiques en 1752. C'est pas non plus Malthus le premier qui s'est intéressé au phénomène démographique, mais ce qu'il a compris et ce qu'il va nous faire comprendre, je pense, à travers ses écrits, c'est que si on s'intéresse à la production et à la répartition des ressources rares, il faut s'intéresser aussi à la question du temps de vie, qui est finalement une des ressources les plus rares pour nous tous et nous toutes. Et donc, Malthus va en sorte initier une étude des relations entre la mortalité et les niveaux de conditions de vie matérielles, entre la fécondité et les niveaux de vie. Et donc voilà, je pense que pour lui, étudier l'économie sur le temps long, ça exige de regarder les relations entre les grandeurs économiques et les grandeurs démographiques.
Grandeur économique et grandeur démographique, on le comprend, c'est aussi ce qui fait l'originalité de la pensée de Malthus, peut-être pas sa nouveauté, vous l'avez déjà évoqué, Grégory Pontière, et de fait, il faut peut-être rendre à César ce qui appartient à César, cette idée de se dire que oui, le facteur démographique, la population est bel et bien un facteur qui influence ou qui peut potentiellement influencer sur le long terme la croissance économique, c'est quelque chose quoi que les économistes avaient du mal à s'approprier jusqu'ici. Est-ce que certains ont tout de même fait des tentatives? Dans quelle mesure on peut vraiment dire que c'est Malthus qui a réussi de fait à souligner la pertinence au moins théorique de ces liens entre croissance économique et croissance démographique?
Alors je dirais que bien avant Malthus, certains auteurs se sont déjà intéressés aux relations entre certaines grandeurs économiques et certaines grandeurs démographiques. Donc bien avant l'apparition du concept de population d'ailleurs. Mmh. On peut remonter par exemple aux travaux du philosophe et juriste italien Giovanni Botero, qui a publié Des causes de la grandeur des villes en 1588. Donc c'est un traité où Botero essaie d'expliquer finalement la dynamique de la taille des villes, quels sont les facteurs qui vont contribuer à l'expansion des villes ou les facteurs qui au contraire vont freiner cette expansion. Et c'est vrai qu'on retrouve déjà évidemment chez Botero des débuts de théorisation pour ces relations entre la capacité d'une société à produire des humains et puis la capacité de ces sociétés à les nourrir. Alors un peu après Botero, bon là c'est plutôt au XVIIe siècle, je crois qu'il faut aussi souligner les travaux pionniers de l'école de l'arithmétique politique anglaise. Mm-hmm. Je pense bien entendu à William Petty, Gregory King, John Grant, qui vont essayer de développer, donc au XVIIe siècle, des outils et des méthodes pour arriver à mesurer la société. Donc ils n'ont pas encore le concept de population, mais ils vont déjà essayer de mesurer la taille des villes, de mesurer la mortalité, de mesurer la fécondité, de réfléchir aux relations, par exemple, entre, est-ce que la fécondité varie et est différente à la ville ou à la campagne. Donc on a là des auteurs qui vont essayer de développer des outils pour mesurer la société. Et c'est évidemment un moment très important dans la fondation des sciences sociales en général, parce que on se doute bien que pendant très longtemps, les humains mesuraient beaucoup de choses, mais ils ne voulaient pas mesurer leur propre société. Elle n'était pas considérée comme un objet d'analyse scientifique. Et c'est avec cette école d'arithmétique politique anglaise qu'on va développer toute une série d'outils. Donc, je pense notamment aux tables de mortalité qu'on utilise encore aujourd'hui et qui ont été développées au XVIIe siècle par ces auteurs.
Cela étant dit, Grégory Pontière, je trouve que cette question des outils, elle est extrêmement importante, puisqu'à partir du moment où on a dit que Malthus a tenté d'établir une théorie sur le temps très long qui prend en compte notamment le facteur démographique. Évidemment, on voit bien tout l'enjeu d'avoir accès à de la donnée, tout simplement. Ce que fait toujours aujourd'hui l'INSEE, par exemple, en France, c'est un peu le nerf de la guerre, on pourrait le dire, très concrètement, à l'époque de Malthus. Et puis, même si on voit plus large, si on remonte à Botero, comme vous l'avez fait, soit 200 ans auparavant, très concrètement, est-ce qu'on a les outils qui permettent d'avoir une vision correcte, qui permettent donc d'avoir des modèles théoriques corrects de cette population et de ce qu'elle consomme et de la fertilité en fonction des différentes zones, on va dire, entre zones urbaines et zones rurales. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir des données fiables, on va dire ?
Alors, si on regarde les travaux de Malthus, bon, on voit que la première version de l'essai, hein, celle, comme vous l'avez dit, qui a été publiée en 1798, on voit dans cette version-là de l'essai, finalement, très peu de chiffres. Alors, il y a quelques tableaux de données, des données paroissiales. Hein. Généralement, vous avez le nombre de baptêmes, le nombre d'enterrements, le nombre de mariages pour quelques périodes, hein, dans certains comtés particuliers. Mais ça reste évidemment très limité. Alors Malthus utilise ces quelques tableaux pour montrer que ça vient, on va dire, corroborer cette théorie. Mais évidemment, on a là une base empirique qui est faible. Et c'est normal, puisqu'on est à la fin... On est à la fin du 18e siècle. Alors, c'est à signaler que dans les versions ultérieures de l'essai, je pense notamment déjà la deuxième version de 1803, Malthus va considérablement gonfler les bases empiriques de son travail. Je pense que la deuxième version, elle est passée de 50 000 mots à 200 000. Je pense qu'on a vraiment eu une très grosse augmentation de taille pour essayer de corroborer le plus possible les éléments de la théorie, même si on va le voir, hein, je pense qu'ils sont pas faciles à corroborer de par leur nature. Donc c'est pas simple de fonder une théorie de la longue période sur des bases empiriques, et c'est encore certainement très difficile au XVIIIe siècle, mais ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que ça reste un vrai défi pour ceux qui font de la macrohistoire ou de l'économie démographique. Ça reste encore assez difficile aujourd'hui, même si évidemment on a accès à une quantité de données qui est infiniment plus grande que celle qui était accessible du temps de Malthus.
Et vous l'avez dit, Grégory Pontière, Malthus se lance malgré tout dans ce défi-là. Mais vous l'avez mentionné aussi, et je trouve ça intéressant, vous avez mentionné que les hommes aiment beaucoup mesurer des choses, plein de choses, mais pas forcément l'état de leur propre population. Comment on explique cette réticence, et comment on explique aussi cette forme de retard, ou en tout cas d'arrivée tardive à la prise en compte de la population, justement, dans les théories économiques? On aurait pu se dire, enfin nous, ça nous apparaît presque comme une évidence, finalement, de prendre en compte le facteur démographique. Pendant très longtemps, ce n'a pas été le cas. Et comme on sent qu'il y a une peut-être forme de mise à distance, comment on pourrait l'expliquer ?
Ah ben, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut relire Foucault, il faut relire La naissance de la biopolitique, il faut relire Territoire, sécurité, population, où Foucault explique, hein, la naissance des sciences sociales. Et en gros, je pense que des raisons, c'est une question de mise à distance. Je pense que l'idée de loi en sciences sociales, mais pendant longtemps, cette idée-là était inconcevable. C'est-à-dire qu'on considérait finalement que c'est le souverain qui faisait les lois, c'est le roi de France qui faisait les lois, le roi d'Angleterre qui faisait les lois, et après ça, voilà, le reste devait suivre. Et la naissance des sciences sociales, hein, alors Foucault la situe au moment de la physiocratie, donc des auteurs comme François Quesnay vont proposer certaines formulation pour certaines lois, par exemple l'idée que l'offre de subsistance va être croissante avec le prix de revient de ces produits agricoles. Et ces lois-là, tout le monde va devoir s'y confronter. Et c'est pas le souverain qui va décider que l'offre sera décroissante avec le niveau des prix. C'est-à-dire qu'il va devoir faire avec. Et donc, évidemment, ça nous paraît naturel aujourd'hui, mais il n'y a rien de naturel dans tout ça. Je pense que, comme Foucault le montre très bien, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'élaborations successives pour voir la naissance de la science sociale, voir l'apparition de ces lois et des outils aussi pour mesurer les variables qui apparaissaient dans ces lois-là. Donc je pense que tout ça s'est fait très progressivement, ça a pris beaucoup de temps, sans doute une émancipation par rapport à la structure très hiérarchique de nos sociétés, par rapport probablement aussi à l'emprise des croyances religieuses. Il y a beaucoup de choses en même temps, à mon avis. Mais je pense qu'il faut relire Foucault pour cette question-là, parce que je pense que voilà, la naissance de la biopolitique, territoire, sécurité, population, c'était des cours du Collège de France qui étaient consacrés précisément à la naissance des sciences sociales. On peut dire que Malthus y a contribué aussi. Hein. Je pense que ce principe de population était présenté par Malthus comme une sorte de loi universelle qui était vraie dans toutes les sociétés, quel que soit l'état d'avancement technologique, quelle que soit la situation géographique, quelles que soient les institutions. Voilà, Malthus pensait là avoir identifié une loi générale. Et vous avez raison que voilà, on n'aurait pas pu faire cela évidemment plusieurs siècles auparavant. Je pense que ça témoigne d'une certaine prise de distance par rapport à la société, d'être capable de regarder la société avec les yeux d'un scientifique et pas juste étudier les étoiles ou les animaux, mais étudier les sociétés humaines, essayer de comprendre leur fonctionnement, d'identifier les lois et de voir voilà. Comment tout cela fonctionne, ça demande une certaine prise de distance.
Et de fait, Malthus peut être présenté comme quelqu'un potentiellement d'avance, en avance sur son temps ou de précurseur, mais il faut peut-être la nuancer les choses aussi. Grégory Pontière, Malthus ne rédige pas son essai sur le principe de population de 1798. Uniquement peut-être pour faire avancer la théorie économique, voilà, ou parce qu'il a à cœur cette volonté de vouloir faire avancer la science sociale. C'est également cet essai-là, il est aussi souvent présenté comme un pamphlet qui est également très politique dans le sens où Malthus a un but. Hein. Il écrit parce qu'il a des choses à dire et il s'en prend notamment aux poor laws. C'est donc ces lois instaurées en Angleterre depuis le XVIe siècle et il demande carrément leur abolition. Du reste, alors on va revenir sur ce point très important des poor laws, mais Grégory Pontière, dans quelle mesure on peut dire que, de fait, cet essai de 1798, qui est d'ailleurs publié anonymement, alors même que c'est censé être un monument aussi hein, de la théorie économique, dans quelle mesure cet essai a effectivement un caractère assez politique ?
Oui, donc vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Je pense que c'est une question fondamentale pour lire Malthus aujourd'hui et pour le comprendre et pour voir qu'est-ce qu'on doit regarder ou pas. Donc je pense que c'est difficile d'une manière générale d'adopter une juste position par rapport à la pensée économique. Parce qu'en fait, la discipline économique, quand on regarde bien, c'est un amas de propositions de différentes natures. Vous avez des propositions qui sont descriptives ou factuelles, qui expliquent comment l'économie fonctionne, comment les choses tournent, on va dire. Et puis à côté de ça, vous avez des propositions normatives qui nous disent qu'est-ce que le monde devrait être. Et ce sont des propositions de nature fondamentalement différentes. Et très souvent, en économie, elles sont mélangées. Et c'est pas facile de faire le tri, de s'y retrouver dans tout ça. Alors, c'est vrai pour la discipline économique en général, d'où la difficulté de s'y positionner, de lire les économistes. Mais c'est aussi vrai, je pense encore plus, pour Thomas Malthus. Parce que c'est vrai que quand on voit ses écrits, on voit là un intellectuel un peu à deux visages. Comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui était en avance sur son temps au niveau de ses contributions théoriques. Il a introduit toute une série de propositions, et même en dehors du champ qui va nous intéresser aujourd'hui, de la démographie économique, il a fait des contributions majeures. Je pense par exemple à sa critique de la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. Donc on a quelqu'un qui, a un siècle avant Keynes, remet déjà en cause la loi des débouchés. Et donc ça fait évidemment de Malthus un auteur, un véritable pionnier. Je pense qu'on peut dire qu'au niveau de ses contributions au savoir économique, c'était une sorte d'avant-gardiste. Mais en même temps, Malthus présente un autre visage. Je pense que on peut raisonnablement dire qu'il avait présenté un certain conservatisme au niveau politique. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui viennent corroborer cela, et je pense que c'est important de garder cela à l'esprit. Alors je sais que les propositions normatives en économie ne sont pas toujours explicitées, les jugements de valeur, toutes ces positions ne sont pas toujours explicitées, et chez Malthus c'est la même chose, elles ne sont pas toujours
explicitées. Oui, il ne l'assume pas.
Néanmoins, il tire quand même toute une série de conclusions, et vous avez dit, cette abolition des lois sur les pauvres, ce n'est pas rien. Alors bien sûr, Malthus n'était pas la seule personne à critiquer les poor laws, déjà chez Adam Smith, je pense aussi chez Quesnay, vous avez toute une série de discussions autour des lois sur les pauvres. On reprochait aux lois sur les pauvres de créer de la pauvreté, notamment en étant un frein à la mobilité du travail. Donc, c'est-à-dire que ça, des théories économiques du XVIIIe siècle, la pauvreté est liée essentiellement à une absence de mobilité des travailleurs. Donc en gros, il y avait une sorte de croyance qu'en cas de manque d'emploi, si vous n'arrivez pas à trouver un boulot dans les champs, dans un village, il fallait juste prendre vos affaires, aller dans le village d'à côté, vous allez pouvoir travailler. Alors évidemment, dans les revenus de cela aujourd'hui, puisqu'on connaît Keynes, on connaît les crises de surproduction générale, on sait que c'est pas juste un problème de mobilité ou d'immobilité.
Je me permets juste, Grégory Pontière, pour les auditeurs et les auditrices, de préciser que ces lois sur les pauvres, de façon très grossièrement résumée, on va le dire, sont des lois qui portent assistance justement aux pauvres, qui leur permettent toute une catégorie de populations, les populations les plus âgées sans emploi et dont personne ne pourrait s'occuper, les plus jeunes aussi. Voilà, toute une catégorie de personnes particulièrement démunies de percevoir une aide, on va dire, sociale, on pourrait la qualifier ainsi, qui est financé aussi par une forme de taxation spécifique. Et c'est donc cela que Malthus critique et dont il demande l'abolition. C'est donc un minimum de revenus pour les pauvres, ce qui effectivement peut sembler un peu radical.
Exactement. Donc vous avez raison de le rappeler. Donc les poor laws existaient depuis le XVIe siècle en Angleterre. Alors c'est vrai qu'on peut y voir un ancêtre lointain de l'État-providence moderne du XXe siècle. C'est un système d'assistance, mais au niveau paroissial. Donc c'est vrai que c'était pas un système, on va dire, dans un état comme ça séparé des paroisses. Donc on était quand même dans un système d'une nature très différente de l'État-providence contemporain, mais c'était un système d'assistance, comme vous l'avez bien dit, qui portait assistance à différentes couches de la population qui était dans le besoin. Et c'est vrai que pour bénéficier de ce dispositif, il fallait être inscrit. Il fallait être dans un registre paroissial, quelque part. Et c'est ça que Smith et d'autres attaquaient en disant, voilà, c'est un frein à la mobilité des travailleurs. Une fois qu'ils sont inscrits dans un registre paroissial, ils peuvent plus se déplacer. Et bon, d'après eux, c'était un frein à la lutte contre la pauvreté. Alors, les arguments de Malthus seront un peu différents, mais je pense qu'il arrivera à une conclusion aussi très radicale, de dire, il faut abolir les lois sur les pauvres. Et c'est parce que il a cette recommandation politique radicale que Malthus publie anonymement la première version de son essai. C'est-à-dire que dans une société où vous avez un grand nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté, hein, si on revoit par exemple les tables de Gregory King, dont j'ai parlé tout à l'heure, un des pionniers de l'arithmétique politique anglaise, donc il a une table de 1688 pour l'Angleterre et le Pays de Galles, sur à peu près 1 400 000 familles, vous en avez 400 000 qui sont dans la catégorie paupers, donc c'est-à-dire qui bénéficient des lois sur les pauvres, ou cottagers. Donc ça veut dire on a presque quoi un tiers de la population qui se retrouve dans des situations matérielles très difficiles. Et donc un pamphlet qui recommande l'abolition des lois sur les pauvres, vous doutez bien que c'est une position qui est très radicale. Mais je pense qu'il y a pas que cela. Aussi, faut lire Malthus et voir comment il parle des personnes pauvres, comment il parle de la population. J'ai retrouvé en préparation de cette émission quelques passages. Par exemple, dans la deuxième version de l'essai, il écrit dans le chapitre 6, « Le peuple doit s'envisager comme étant lui-même la principale cause de ses souffrances. » C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de très culpabilisant. Il écrit aussi, « Il faut désavouer publiquement le prétendu droit des pauvres à être entretenu aux frais de la société. » Donc vous voyez quand même cette manière.
Bien là, effectivement, une notion de réactionnaire, oui.
Mais oui, ça fait penser un peu à François Quesnay qui écrivait « Il faut que le prix du pain soit suffisamment élevé, sinon les travailleurs vont devenir paresseux et arrogants ». Je veux dire, vous avez ça dans la physiocratie. Vous avez des gens du XVIIIe siècle qui écrivent des choses comme ça. Et donc, je pense qu'il faut garder cela à l'esprit. Je ne voudrais pas réduire Malthus à cela, mais je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'il avait un véritable conservatisme politique. Et je pense que le parallèle avec la physiocratie ici me paraît tout à fait approprié. Et je repense d'ailleurs au diagnostic qu'avait posé Jean Cartelier dans son introduction aux travaux de François Quesnay pour chez Flammarion il y a quelques années. Jean Cartelier avait dit, ben voilà, les physiocrates présentent un véritable paradoxe. Ce sont à la fois des avant-gardistes au niveau des outils qu'ils ont développés pour la théorie économique, comme le concept d'avance qui anticipe le concept de capital, etc. Et en même temps, ils étaient réactionnaire au niveau politique. Ah bon, là, clairement, les physiocrates étaient en faveur de l'ancien régime. Alors, Malthus, la situation est sans doute un peu différente. Hein, je ne dirais pas que c'est exactement la même chose, mais je pense qu'il y a quand même ce paradoxe qui est là. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on lit Malthus, et surtout quand on essaie de voir qu'est-ce qu'on va en retirer pour aujourd'hui. Parce que je pense que c'est très important d'étudier la longue période, je pense que c'est très important d'étudier les interactions entre les variables économiques et les variables démographiques, Mais par contre, cet agenda politique qui est basé sur des prémices normatives, ma foi, assez douteuses, je pense qu'il faut clairement faire la part des choses.
Donc voilà. On retrouve là cette forme de paradoxe aussi, Grégory Pontière, entre un homme avant-gardiste, certes d'un point de vue théorique, mais potentiellement plus réactionnaire d'un point de vue politique. La mise en garde est bien passée. Alors vous avez cité, hein, Grégory Pontière, quelques extraits que vous avez retrouvés pour nous, et je vous en remercie. Moi, je voudrais vous faire entendre une autre version de Malthus, dans sa version... déjà évidemment traduite en français et qui est celle d'une autre version, puisqu'il remanie beaucoup la première édition de 1798. C'est donc la version de 1803, la deuxième en l'occurrence, que vous allez entendre.
Supposons que grâce à une souscription imposée aux riches, on arrive à donner à l'ouvrier 5 shillings par jour pour prix de son travail, au lieu de 18 pence ou 2 shillings, comme actuellement. On pourrait peut-être s'imaginer que grâce à cette augmentation, tous vivraient dans l'aisance et pourraient acheter tous les jours de la viande pour leur dîner. On se tromperait pourtant. En effet, le fait de donner 3 shillings de plus à chaque ouvrier n'augmenterait nullement la quantité de viande qui existe dans le pays. Or, il n'y en a pas assez actuellement pour que chaque habitant en ait sur la table. Qu'arriverait-il donc ? La concurrence des acheteurs sur le marché ferait bientôt monter les prix. Alors qu'à présent, la livre de viande coûte un peu moins d'un demi-shilling, elle en coûterait 2 ou 3. En définitive, toute la production du pays ne serait pas répartie entre un plus grand nombre de personnes qu'actuellement. Quand une marchandise est rare et ne peut être distribuée à tous, elle va au plus offrant. Supposons maintenant que la concurrence pour la viande se maintienne entre les acheteurs assez longtemps pour inciter les paysans à augmenter leurs troupeaux et à intensifier l'élevage. Ce ne pourrait être qu'au préjudice de la récolte de grains. Or, cet échange serait très désavantageux. Il est évident que le pays ne pourrait plus nourrir la même population. Il s'ensuit que lorsque les subsistances sont rares par rapport au nombre des habitants, il importe peu que les gens des classes inférieures aient à dépenser 2 shillings par jour ou 5. Quelles que soient leurs conditions financières, ils n'en seront pas moins réduits à se contenter de la portion congrue. On avancera peut-être que l'accroissement du nombre des acheteurs donnera un nouvel essor à l'industrie et accroîtra la production totale du pays. Mais cet essor sera plus que compensé par l'accroissement de la population, provoqué par ces richesses imaginaires. La production croissante devra alors être répartie entre un plus grand nombre de personnes, et leur accroissement sera sans doute plus rapide que celui de la production.
On entendait là un extrait donc des fameux essais sur la population de Malthus dans sa version de 1803. Grégory Pontière, cet extrait, il nous permet de nuancer aussi la position de Malthus. On l'a dit, certes, il demande l'abolition des lois pour les pauvres, mais en fait, si on regarde plus précisément son argument, il va un peu au-delà de ça. Et on retrouve là toute l'importance du temps très long et puis cette idée de dynamisme aussi de la démographie. Ce que Malthus nous dit, c'est que finalement, oui, peut-être que les lois pour les pauvres pourraient avoir des effets bénéfiques pendant un certain temps, mais un temps relativement court, de quelques années au maximum, mais que sur le temps très long, cela provoquera des déséquilibres. Et on retrouve là, Grégory Pontière, cette idée que sur le temps long, effectivement, pour Malthus, porter assistance aux pauvres n'est pas nécessairement une très bonne idée pour la croissance économique.
Oui, je crois que c'est un passage qui illustre bien, enfin, on rentre vraiment dans le vif du sujet là, puisque on voit... ce discours malthusien où il sera question effectivement de denrées de subsistance d'un côté et puis de bouches à nourrir de l'autre côté. Ah, et donc, c'est clair que la critique qu'il formule des lois sur les pauvres repose sur ce qu'il appelle son principe de population. Alors peut-être que je voudrais te dire quelques mots sur ce principe de population en général avant de revenir sur la
critique. Bien sûr, allez-y. Bourlose. Oui, oui.
En fait, c'était pour Malthus une loi générale. Il faut bien se rendre compte que cet essai sur le principe de la population intervient à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte historique bien particulier. Donc, il y a eu la Révolution française, il y a une sorte de vent d'optimisme qui souffle sur l'Europe, Et toute une série d'intellectuels propose des réformes institutionnelles majeures qui, selon eux, va conduire à un enrichissement durable des sociétés, à une prospérité durable, à une croissance démographique, à une amélioration des conditions de vie pour le plus grand nombre. Alors, je pense par exemple à William Godwin ou à d'autres. Et Malthus, lui, ne pense pas du tout que ce genre de remède institutionnel, ne pense pas que cela va marcher. Il pense que ça marchera, mais à très court terme, peut-être pour quelques décennies, mais pas au-delà. En fait, Malthus pense que toute société va nécessairement connaître une succession de périodes de d'enrichissement, d'expansion de l'économie et de croissance de la population. Et après ça, des périodes où, au contraire, les conditions de vie se détériorent et la population se réduit. Et pour justifier cette croyance là-bas assez pessimiste, hein, Malthus avance son principe de population. Donc en gros, le principe de population, c'est l'idée suivante. C'est l'idée sur laquelle, quelle que soit la société que vous considérez, quelles que soient les institutions, le niveau de progrès technique, toute société fait face à un déséquilibre majeur, un déséquilibre fondamental entre deux puissances. Hein, d'une part, la capacité de cette société à produire des êtres humains, et d'autre part, la capacité de cette société à produire des moyens de subsistance pour les nourrir. Et pour Malthus, la première puissance l'emporte toujours sur la seconde. Et c'est ça qui rend impossible toute prospérité durable, tout accroissement, soutenu de la production.
Oui, puisque Grégory, je vous permets juste de reprendre votre propos, juste pour rentrer dans ce détail-là, parce qu'effectivement, c'est au cœur de la pensée de Malthus, mais on voit effectivement un cercle vicieux, finalement, se mettre en place. C'est qu'avec cette idée d'un déséquilibre fondamental chez Malthus entre moyens de production et donc façon de nourrir la population et vitesse de cette croissance de population, finalement, au bout d'un moment, on n'a pas assez, tout simplement, de denrées pour nourrir la population, donc de fait, une forme de mortalité, donc une baisse de la population qui permet un enrichissement global, mais cet enrichissement conduit, on va dire, à une augmentation de la population et ainsi le cercle se répète indéfiniment.
Exactement,
pour Malthus,
exactement.
C'est ça, en fait, le vrai problème.
Exactement, c'est des oscillations perpétuelles. Vous l'avez dit, il y a une sorte de déséquilibre. On a d'un côté, alors Malthus va illustrer ça avec ses fameuses deux propositions où il dit que la taille de la population, en l'absence de contrainte des ressources, va suivre une progression géométrique, tandis que les denrées de subsistance vont suivre au mieux une progression arithmétique. Donc on a d'un côté un processus multiplicatif, de l'autre côté un processus additif. On voit bien qu'il y a une grande différence de puissance. Et comme vous l'avez dit, cela va générer tôt ou tard des corrections de la population vers le bas. Alors ces corrections prennent différentes formes d'après Malthus. Ça peut être soit une correction dans la première version de l'essai, hein, celle de 1798, Malthus parle uniquement de deux mécanismes de correction. Il y a ce qu'il appelle la correction préventive, c'est-à-dire des parents qui anticipent des difficultés à nourrir leurs enfants dans le futur et donc qui décident de réduire leur descendance, hein, réduire la taille de leur descendance. Et à côté de ça, la correction positive, alors qui est pas du tout positive dans le sens désirable ou charmante, mais qui est simplement positive dans le sens où c'est une correction qui est observable par la surmortalité au sein des classes les plus pauvres. Et c'est de ça dont il est question dans le passage. C'est-à-dire que Malthus explique que, bien sûr, si vous imaginez des dispositifs de redistribution ou des améliorations institutionnelles, elles vont dans un premier temps desserrer, on va dire, les contraintes de ressources et améliorer les conditions de vie. Mais ce sera nécessairement un effet qui sera temporaire. Hein. Ce sera nécessairement temporaire. Pourquoi ? Ben parce que si le principe de population est correct, si vous avez ce déséquilibre entre ces deux puissances, tôt ou tard, les ressources, les denrées viendront à manquer.
Mais alors, Grégory Pontière, petite question, oui. Vis-à-vis de ces deux façons, on va dire, de corriger ces deux mécanismes de correction que vous venez d'évoquer. On pourrait se dire qu'assez rationnellement, on préférera toujours ne pas avoir d'enfant, ne pas mettre un enfant au monde plutôt que de mourir, finalement. De façon très rationnelle, on pourrait dire que les individus s'adaptent aussi et prennent conscience, finalement, que plutôt que de choisir la surmortalité, mieux vaut ne tout simplement pas concevoir d'enfant. Comment expliquer que, finalement, ce processus d'adaptation-là, il n'est pas lieu chez Malthus.
Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Évidemment, la correction préventive serait, en tout cas, plus souhaitable que la correction positive.
C'est douloureuse. Ouais.
Même si la correction préventive pose aussi toute une série de problèmes. On en parlera d'ailleurs plus tard, je pense, dans l'émission. Mais c'est vrai que Malthus nous dit, voilà, ce serait mieux, évidemment, si c'était la correction préventive qui arrivait à ramener une sorte d'équilibre, de juste proportion entre la taille d'une population d'autre part et les moyens de subsistance disponibles de l'autre. Mais Malthus nous dit que malheureusement, les êtres humains ne sont pas des êtres rationnels. On va pas avoir cette anticipation. On n'a pas des agents forward-looking ici qui vont anticiper ces difficultés futures. Et donc, la plupart des corrections vont se faire par la surmortalité au sein des classes les plus pauvres. Et donc, c'est quelque chose évidemment que Malthus regrette, parce que Malthus préférait que la correction des populations ait lieu par la correction préventive. Mais c'est un défaut de rationalité qui conduit, on va dire, au primat de la correction positive. Et donc, cette question de rationalité est importante. Pour Malthus, les êtres humains ne sont pas des êtres rationnels, ce sont des sujets composés. Alors, il parle de « compound beings », pour dire, en fait, ce sont des sujets qui ne sont pas mus par le calcul, en fait. Ils ont des instincts, ils ont des désirs, et on peut pas... Enfin, voilà, la nature humaine est telle, d'après Malthus, que cette correction préventive va rester marginale par rapport à la correction positive. Et c'est bien entendu dramatique, parce que dans le cadre des pourlaus, pour Malthus, les pourlaus, même si elles ont été instituées à des fins bienveillantes, d'après lui, elles contribuent à répandre la pauvreté sur une surface plus grande. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça va augmenter, on va dire, l'ampleur des oscillations. Comme c'est expliqué dans le passage que vous avez donné, il y a deux mécanismes d'ajustement qui vont ici être mobilisés par Malthus pour expliquer en quoi les pourlaus en fait augmentent la pauvreté. Ça doit nécessairement être un argument dynamique, parce que d'un point de vue statique, on a bien du mal à voir comment une pourtaxe qui taxerait les propriétaires fonciers et qui redistribuerait les ressources vers les personnes démunies, on voit mal comment ça pourrait augmenter la pauvreté.
La pauvreté, oui, effectivement.
Manifestement, ça, c'est pas possible. Et donc, l'argument que Malthus développe, c'est un argument dynamique, avec chaque fois, si vous voulez, une sorte d'intervalle de temps, de laps de temps, qui va s'écouler et qui va générer l'ajustement de certaines variables. C'est pour ça qu'on parle d'un ajustement vraiment, d'un argument vraiment dynamique, parce que c'est un argument qui présuppose un certain intervalle de temps qui n'est pas spécifié dans l'essai, parce que même si Malthus avait fait des études de mathématiques à Jesus College à Cambridge, il n'y a pas d'équation mathématique dans son essai.
Oui, donc
l'aspect dynamique temporel, ça reste assez informel, bien entendu.
Oui,
on verra ça là-dessus tout à l'heure. Mais c'est vrai que son argument est dynamique, parce qu'il y a deux types d'ajustements qui sont considérés. Un ajustement de la production totale vers le bas, et puis un ajustement de la taille de la population vers le haut.
Et on voit là effectivement les deux mécanismes, on voit là aussi toute l'importance de nuancer la pensée de Thomas Malthus, qui, on va dire, ne souhaite pas nécessairement, on va dire, la mort des catégories les plus pauvres de population, mais plutôt appel à leur raison face à une rationalité limitée, vous l'avez dit, Grégory Pontière, des hommes, qui est donc au fondement de son principe de population, le principe de population malthusien, une dimension sur laquelle insistait le démographe Hervé Lebras dans Les chemins de la connaissance sur France Culture, c'était en 1980.
Malthus, je dirais, défend les êtres une fois qu'ils sont nés. Malthus défend la famille, par exemple. En ce sens-là, il a du cœur, si on peut employer cette grille de jugement pour une œuvre. Il défend la famille, mais il insiste sur le fait que cette famille doit pouvoir fonctionner. Il posera donc, dès la seconde édition de l'essai, comme l'un des obstacles les plus puissants à la population, ce qu'il a appelé la contrainte morale, dont on a beaucoup parlé par la suite, qui ne signifie bien sûr pas du tout la contraception, mais, disons, à la fois le retard de l'âge au mariage et la continence peut-être dans le mariage. Et tout ceci pour que les enfants naissent lorsque les parents peuvent les entretenir. Est-ce un point de cœur ou est-ce un point de raison ? Je suis un tout petit peu partagé. C'est un point de cœur si on pense aux enfants, mais peut-être que si on pense aux parents, c'est peut-être plus un point de raison. C'est un aspect qui est aussi négligé de Malthus, c'est cet appel à la raison qui est un aspect tout à fait 18e siècle, que n'aurait pas du tout désavoué ni son père, ni même justement les philosophes de la fin du 18e siècle, comme Condorcet et Godwin, qui voyaient un triomphe imminent de la raison. Malthus se réfère encore à ce thème de la raison, qui sera dans le courant du 19e siècle petit à petit abandonné et qui disparaîtra même à la fin du 19e, je dirais, comme conséquence sans doute du darwinisme et de théorie biologique.
Grégory Pontière, cet extrait est intéressant puisqu'il nous, il nous reprend ce qu'on vient de dire aussi en partie sur la rationalité limitée des hommes confrontés finalement à ces deux mécanismes de correction. Et finalement, l'essai de Malthus est de fait un appel à la raison. Est-ce que vous souscrivez à cette idée, Grégory Pontière?
En fait, oui, oui et non. Si on revient à la première version donc de l'essai de 1798, on voit bien que Malthus reproche à Godwin une représentation biaisée des humains comme êtres rationnels. D'ailleurs, ça apparaît clairement par page 163. Malthus écrit « Mr. Godwin considers men too much in the light of being merely intellectual. The voluntary actions of men may originate in their opinions, but these opinions will be very differently modified in creatures compounded of a rational faculty and corporal propensities from what they would be in beings wholly intellectual. » Donc vous avez cette idée de composition. Les êtres humains sont composés. C'est pas juste des êtres rationnels. Il y a autre chose. Il y a cette part d'irrationalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la correction préventive, en fait, ne marche pas. Et c'est pour ça que Malthus peut fonder sa théorie de la stagnation de longue période sur son principe de population. Alors, ça, c'est dans la première version de l'essai. C'est vrai que dans la version suivante, en 1803, il a introduit un troisième mécanisme d'ajustement de la population, ce qu'il appelle le moral restraint, et comme Hervé Lebras le souligne très justement, cette idée de reporter l'âge au mariage pour essayer d'arriver à des familles de plus petite taille et surtout qui apparaissent dans des ménages qui sont un tout petit peu plus dotés en termes de ressources. Alors, ce remède introduit là par Malthus, je ne sais pas si... je ne crois pas qu'il entre vraiment en contradiction avec... Je dirais que c'est une évolution de sa pensée, mais je ne dirais pas que c'est une contradiction par rapport à la première version de l'essai, parce que, oui, l'être humain est un sujet composé, et donc il faut faire appel à une partie de cet être humain, sa partie rationnelle. Hein. Donc c'est un appel à la raison.
Via la morale, quoi, tout de même.
Voilà, via la morale, mais je pense que... Et là, il faut revenir un petit peu pour l'analyser, et à mon avis, c'est le sens de ce qu'Hervé Lebras dit quand il se demande est-ce que c'est un appel du cœur ou de la raison. En fait, il fait référence aux jugements de valeur qui sont ici présents et qui manqueront pas d'ailleurs d'être soulignés, d'être critiqués par d'autres économistes. Car effectivement, on est là face à un problème de surmortalité au sein des classes les plus pauvres. Et la réponse que Malthus donne ici, c'est voilà, il faut un appel à la morale. Donc, c'est pas étonnant du coup quand on lit Marx, par exemple les manuscrits de 1844, lorsque Marx critique Malthus là-bas, mais il va vraiment dénoncer une sorte d'économiste moraliste qui finalement face à un problème de rareté des ressources nous dit ben voilà la réponse c'est la morale. En fait, il faut attendre plus longtemps avant de se marier et de fonder une famille. Donc je pense que là vous voyez on revient à l'avertissement initial dont on a parlé. Les théories de Malthus, ces principes sont intéressants, mais il ne peut pas déduire l'abolition des poor laws à partir des mécanismes d'ajustement dont il parle. Même s'il y a une baisse du produit, même s'il y a une croissance de la population, vous ne pouvez pas en déduire qu'il faille nécessairement abolir les lois sur les pauvres. En fait, pour déduire un should, il faut un should aussi dans les prémices. C'est David Hume qui montre ça dès le XVIIIe siècle. On ne peut pas déduire une proposition normative à partir de prémices qui sont purement positives. Et donc on voit bien ici que chez Malthus, il y a ce problème-là de jugement de valeur. Et en gros, ce moral restreint pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Parce que voilà, face à cette surmortalité des plus pauvres, pourquoi pas trouver des solutions institutionnelles? Pourquoi pas des solutions d'un autre type? Pourquoi est-ce que c'est la morale qui serait la solution? Bon, Marx dirait, voilà, c'est une morale petite bourgeoise au service des classes dominantes. Il va mettre Malthus dans ce panier-là, vous voyez. Donc, je pense que on est là vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire qu'à partir d'un véritable, de fait, de constat de cette surmortalité au sein des classes les plus pauvres, Malthus tire toute une série de conclusions. Il propose toute une série de remèdes. Mais vous voyez qu'il y a quand même des jugements de valeur qui sont manifestement présents. Et du coup, je comprends qu'Hervé Lebras hésitait entre un point de cœur ou un point de raison. Parce que là, on voit bien que chez Malthus, c'est pas neutre du tout d'utiliser la morale pour proposer cette sorte de solution à la dynamique oscillatoire des économies qu'il présentait dans son essai.
On le voit, Grégory Pontière, les solutions entre guillemets que propose Malthus sont relativement problématiques, en tout cas posent problème à certains de ses lecteurs, dont Marx, vous l'avez cité. Une autre chose va poser problème, c'est tout simplement le progrès technique qui est celui du 19e siècle, qui de fait invalide quelque part aussi les prédictions, ou en tout cas l'analyse de Thomas Malthus, puisqu'à partir du moment où le progrès technique permet de produire plus potentiellement, on peut nourrir plus de personnes, ce qui est au cœur de la pensée de Malthus. On en parle juste après Too Many People, c'est ce que chantait Paul McCartney. Vous êtes bien sur France Culture et nous explorons aujourd'hui la pensée de Thomas Malthus et puis son héritage aussi, également en compagnie de l'économiste Grégory Pontière. Alors Grégory Pontière, on l'a vu, les solutions que propose Thomas Malthus et puis même son analyse de façon générale ne sont pas toujours très bien reçues. On a commencé à évoquer la lecture qu'en a fait Marx entre autres et puis Engels aussi à son niveau. Avant peut-être de rentrer trop spécifiquement dans cette reprise, ces relectures qui a pu avoir lieu par la suite, est-ce qu'on sait si, de son vivant, quasiment, Thomas Malthus a été confronté, de fait, à l'espèce d'aporie qui constituait aussi une partie de son raisonnement et qui a été confronté à la révolution industrielle, tout simplement. Est-ce que le progrès technique a constitué une difficulté, on va dire, pour Thomas Malthus de son vivant, ou est-ce qu'il n'avait tout simplement pas conscience que quelque chose était en marche en Angleterre à ce moment-là?
En fait, sa théorie n'exclut pas la possibilité d'un progrès technique. En fait, la proposition selon laquelle les subsistances vont suivre au mieux une progression arithmétique, en fait, ça permet un progrès technique. Et Malthus était bien conscient du fait qu'il était tout à fait possible d'avoir, au cours du temps, une amélioration des techniques de production dans l'agriculture, une hausse de la productivité. Donc tout ça, c'était possible pour Malthus, mais à cause de la fixité de la Terre, il allait nécessairement avoir une limite aux retombées de ces progrès techniques sur les possibilités de production des denrées de subsistance.
Donc on voit là qu'il contourne, en tout cas, que cet aspect nouveau des choses, on va dire que la révolution industrielle ne lui pose pas tant de difficultés que cela de son vivant, mais c'est peut-être bien après que les difficultés vont arriver, notamment via la lecture de Marx, qui prend donc ses distances tout en comprenant aussi dans sa théorie le facteur de la population, mais il prend ses distances vis-à-vis du Malthus, comme il l'exprime dans ses Grundrisse en 1858.
Sa conception est de bout en bout fausse et puérile. Petit 1, parce qu'il considère la surpopulation aux diverses phases historiques de l'évolution économique comme un phénomène uniforme, qu'il ne saisit pas les différences spécifiques et réduit donc stupidement ses rapports très complexes et changeants à un rapport unique de deux équations où se font face d'une part la propagation naturelle de l'espèce humaine, de l'autre la propagation naturelle des végétaux ou moyens de subsistance, comme deux séries naturelles, l'une à progression géométrique, l'autre à progression arithmétique. Petit 2, il rapporte bêtement une quantité déterminée d'hommes à une quantité déterminée de moyens de subsistance. Ricardo lui a aussitôt justement opposé que la quantité de céréales disponibles est parfaitement indifférente à l'ouvrier lorsqu'il n'a pas d'emploi. Que par conséquent, ce sont les moyens d'emploi et non les moyens de subsistance qui le rangent ou non sous la rubrique de la surpopulation. Il faut cependant concevoir la chose de manière plus générale et se référer à l'ensemble de la médiation sociale à travers laquelle l'individu entre en rapport avec les moyens de sa reproduction et où il les crée. Donc, aux conditions de production et aux rapports qu'il a avec elle.
Une conception fausse et puérile, voilà qui n'y va pas par quatre chemins, Grégory Pontière. Très concrètement, que reproche Marx à Malthus ?
Mais je pense que c'est un procès en mauvaise abstraction. C'est-à-dire que ce que Marx reproche à Malthus, c'est d'avoir trop simplifié sa représentation de la dynamique historique des sociétés. Marx dit clairement qu'on ne peut pas énoncer de loi générale de surpopulation ou autre indépendamment de l'étude du mode de production qui prévaut. Donc il faut réfléchir aux dynamiques économiques à l'intérieur, il faut les réencastrer, si vous voulez, dans l'étude des modes de production. Donc il faut le défaut principal de Malthus a été clairement de vouloir définir un principe de population qui était censé être vrai partout. Et Malthus nous dit non. Marx nous dit non. En fait, il n'est pas vrai partout. En fait, chaque mode de production aura sa propre surpopulation. Et donc, on peut pas simplement réduire l'étude de la dynamique des sociétés à une équation pour l'évolution de la quantité des subsistances et une équation pour le nombre de personnes. En fait, c'est beaucoup trop simplificateur de faire cela. Et l'exemple qu'il donne avec la personne privée d'emploi, il est très clair. Si quelqu'un se retrouve privé d'emploi, il ne peut pas, dans la société capitaliste, dans le mode de production capitaliste qui est étudié par Marx, il ne peut pas avoir accès à des ressources, et c'est vrai, quelle que soit finalement la quantité totale de denrées de subsistance qui existe dans l'économie à ce moment-là. Et donc c'est très important du coup de reconnecter cette question de la surpopulation de l'étude du mode de production. Plus tard dans le Capital, Marx dira en fait qu'il n'y a pas de surpopulation absolue. Toute surpopulation est nécessairement relative à un mode de production donné, et donc il s'agit de réencastrer l'analyse économique finalement, dans l'étude des modes de production. On ne peut pas faire abstraction des modes de production.
Et de fait, c'est ainsi aussi que Marx explique le phénomène de stagnation. C'est aussi en fonction de ce mode de production. Donc on comprend bien que Malthus et Marx sont confrontés finalement au même phénomène, celui d'une surmortalité dans certaines couches de la population, et en l'occurrence les plus pauvres. C'est juste que leur raisonnement n'est pas du tout le même. Il y a donc une forme de prise de distance. Grégory Pontière, j'avance un peu dans le temps, parce que notre émission avance elle aussi dans le temps. Mais il y a d'autres économistes et d'autres penseurs qui vont aller encore plus loin et qui vont renverser finalement ce que nous disait Thomas Malthus, et qui vont dire, en fait, non, la population, le fait d'avoir un très grand nombre d'hommes et de femmes disponibles, c'est un moteur de la croissance, c'est une façon aussi pour l'économie de trouver une phase d'expansion. C'est notamment le cas du parlementaire conservateur anglais John Wheeland, qui est en 1816, donc quasiment contemporain de Malthus, le dit. Finalement, il y a des analyses complètement différentes, complètement inverses de celles de Malthus qui émergent. Sur quoi sont-elles fondées ?
Oui, donc c'est assez surprenant de constater que finalement les critiques de Malthus, on les a retrouvées aussi bien à gauche de l'échiquier politique qu'à droite de l'échiquier politique. C'est vrai que John Wayland était effectivement un parlementaire anglais conservateur. Il a écrit les Principles of Population and Production en 1816, donc c'est un traité en trois volumes, trois livres consacrés aux principes de population. Alors, Wayland était d'accord avec Malthus sur la nécessité d'abolir les poor laws. Donc, Wayland considérait d'ailleurs que la pauvreté était un stimulus à l'industrie. Donc, c'est un peu comment il présentait les choses. Mais par contre, au niveau des analyses et des diagnostics, ils sont complètement en désaccord. Pour Wayland, le principe de population est faux. pour Wayland, une population reste toujours dans un intervalle qui est compatible avec la capacité à produire des subsistances.
Mais pourtant,
vous n'avez jamais ce déséquilibre dont parle Malthus. Et pour Wayland, les corrections préventives et positives, en fait, elles existent uniquement dans le cerveau de Malthus. Elles n'existent pas dans la réalité. Wayland va même aller très loin dans ses principes de population et de production, puisqu'il va aller jusqu'à affirmer que la pression démographique n'est pas du tout un problème, mais que c'est la seule source de progrès pour nos sociétés. Donc en gros, l'argument avancé par Wayland, c'est que c'est la pression démographique qui pousse les humains à rechercher des nouveaux modes de production, chercher des nouvelles techniques de production et aussi des nouvelles institutions pour mieux se coordonner. Donc Wayland avance par exemple l'idée sur laquelle sans pression démographique, l'être humain n'aurait jamais découvert l'agriculture et on serait toujours des chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Il avance aussi l'idée sur laquelle le marché est né comme un outil de coordination des personnes. Les prix servent de signaux, donc ça c'est vraiment dans la lignée de la richesse des nations d'Adam Smith. Les prix servent de signaux, permettent de coordonner les personnes. Pour Wayland, tout ça a été créé parce qu'il y avait la pression démographique. Donc vous voyez que là, il y a un renversement complet, évidemment, des perspectives malthusiennes.
Grégory Pontière, je me permets de vous interrompre parce que cette émission est bientôt arrivée à son terme et on est très loin d'avoir pu aborder l'intégralité de l'héritage aussi de la pensée de Malthus. On l'a dit, les faits historiques se confrontent à la modélisation de Malthus. Les sociétés finissent par sortir de la stagnation. Vous parlez dans votre ouvrage d'un véritable décollage de l'Angleterre à partir de 1820. On observe une croissance à la fois de la taille de la population, mais aussi du produit par tête. Est-ce qu'on peut dire que Malthus a été de fait décrédibilisé? Est-ce que, notamment via l'arrivée d'autres courants, et du courant marginaliste entre autres, et je pense là à William Jevons, est-ce que aujourd'hui on retrouve tout de même une pertinence de l'analyse de Malthus qui permette d'expliquer, qui rentre dans une forme de modélisation de la croissance?
Alors oui, je pense que vous avez tout à fait raison de souligner que le principe de population malthusienne va perdre de son éclat durant le 19e siècle, et pour deux raisons que vous avez mentionnées. Il y a une raison qui est assez factuelle, c'est-à-dire que nos sociétés vont connaître la transition démographique. Donc c'est une transition où les sociétés passent d'un régime démographique avec une fécondité élevée et une mortalité élevée à un autre régime démographique où la fécondité est plus basse et la mortalité est plus basse. Cette transition va commencer au début du 19e siècle en Europe occidentale avec une baisse de la mortalité. Alors au début, évidemment, comme nos pays connaissent à cette époque-là une industrialisation, ça va pas vraiment à l'encontre de la doctrine malthusienne au départ, puisque voilà, la mortalité qui baisse quand les conditions de vie matérielle s'améliorent un petit peu, même si bon, il y avait quand même encore beaucoup de problèmes dans la première moitié du 19e siècle. On le voit d'ailleurs dans l'espérance de vie, qui a pas connu toujours une évolution monotone, croissante. Mais on voit bien qu'à partir de 1870, c'est la transition de la fécondité, et là, la fécondité commence à baisser. Alors que, comme vous l'avez dit, il y a une croissance importante de la production par tête. Et ça va vraiment pas corroborer, c'est le moins qu'on puisse dire, thèses malthusiennes, parce que d'après Malthus, on devrait avoir à ce moment-là des familles de plus grande taille, et pas de plus petite taille. Donc on voit bien que, vous avez raison, les évolutions de nos économies au 19e siècle sont venues infirmer ce principe de population qui peut-être être perçu comme une explication plausible pour la stagnation de longue période dans la période pré-industrielle, mais certainement pas dans la période industrielle. Alors il y a un autre élément qui va expliquer, je crois, la perte d'éclat du principe de population malthusien, mais c'est une évolution interne à la discipline économique. C'est ce changement de paradigme que la discipline économique a connu au moment de la révolution marginaliste, au moment de la révolution néoclassique. Il y a un double mouvement, une mathématisation de la discipline économique et puis un accent beaucoup plus important qui est placé sur les décisions des agents, donc sur ce qu'on appelle la microéconomie.
C'est ça, Grégory Pontière, pour le dire de façon relativement simple et sans doute pas assez approfondie, mais c'est cette idée que via la mathématisation, finalement, le comportement des individus devient optimal. Il y a cette notion de choix, de calcul qui est très importante et donc les individus choisissent aussi d'adapter leur comportement en fonction de ce qui sera le plus optimal pour eux et donc ça conduit à une forme d'équilibre aussi. Et ça, c'est effectivement un tournant et ça résonne aussi à population constante. On va dire que le principe démographique est un peu abandonné de ce fait-là. Mais cette idée de l'importance de la notion du facteur population, il va revenir tout de même dans certains modèles de la croissance. Comment on explique le retour en grâce, finalement, non pas forcément de la théorie de Malthus, mais de ses outils et de ses facteurs, de ses variables, à savoir la population?
Exactement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Un des pères de l'analyse néoclassique, Jevons, lorsqu'il définit définit la discipline comme economics plutôt que political economy. Donc ça se passe dans The Theory of Political Economy en 1871. Jevons nous dit, voilà, maintenant la nouvelle discipline économique va s'intéresser à l'allocation des ressources à taille de population donnée. Mais bon, évidemment, il propose ça en 1871. Mais vous voyez bien qu'avec les évolutions démographiques qu'on va avoir au XXe siècle, bon, c'est totalement impensable d'avoir une pensée économique qui raisonne à taille de population constante. Donc c'est pas possible. Et on voit bien que lorsque les théoriciens néoclassiques vont essayer de s'emparer de la question de la dynamique de longue période, et je pense notamment à la création de la théorie de la croissance dans les années 1950, eh bien, les variables démographiques vont réapparaître. Hein, et le modèle de Solow de 1956...
Merci beaucoup, Grégory Pontière. Malheureusement, cette émission est en train de se terminer, mais je renvoie évidemment les auditeurs à des émissions que nous avons consacrées, notamment à Solow et puis à son modèle de croissance. Et puis, on aurait pu disserter encore longtemps sur la façon dont aujourd'hui encore nos sociétés actuelles relèvent aussi quelque part du post-malthusianisme. Mais on en parlera une prochaine fois, c'est promis. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission.